Les orages maléfiques, chapitre 6. Il avait de plus en plus de mal à supporter la charge qui lui incombait. La mort dans l'âme, il éplucha les dossiers, afin de préparer la liste de ceux qui rejoindraient la charrette des suppliciés. Plus il avançait dans sa tâche, plus il souffrait. Seul l'alcool lui témoignait une amitié perverse. Tous les soirs, il rejoignait le pub et ingurgitait verre après verre, le whisky lui permettant d'oublier momentanément son travail et ses vicissitudes. Lorsqu'il rentrait enfin dans son studio, il échangeait quelques mots avec sa douce compagne, qui ne manquait pas de l'appeler quotidiennement. Elle avait remarqué l'état dans lequel il lui répondait chaque soir. Indulgente, elle mettait ça sur le compte de la fatigue, en espérant que ça irait mieux le lendemain. Les jours suivants ressemblaient aux jours précédents en pire. Peu à peu, il plongea dans un état qui altéra ses capacités de discernement. Son unique obsession demeurait le sort des 90 personnes qu'il allait choisir. Chaque fois qu'il y pensait, il maudissait le sort de l'avoir choisi pour ce dessein funeste. Il tergiversait. Le moment fatal approchait, et ses doses d'alcool prenaient une ampleur inégalée. Le spécialiste qui l'épaulait, on devrait dire qu'il le supervisait, voulait boucler le dossier dans le mois, et nous étions le 26. Il passa plusieurs nuits blanches à établir le listing de la mort. Des noms alignés sur 3 feuilles sortirent de l'imprimante. Il triturait le papier dans tous les sens, comme s'il s'agissait d'un brouillon à jeter à la corbeille. Il y eut peu de remaniements. 4 noms sautèrent du chariot des condamnés, remplacés par d'autres moins chanceux. Lorsqu'il lut les désignations, il en eut les larmes aux yeux. Il voyait les visages de ses femmes et ses hommes avec qui il avait partagé de longues années de collaboration et de complicité, dont certains étaient devenus ses amis. Il lui restait peu de temps avant qu'un orage maléfique ne se déclenche. Les lettres de licenciement partiraient le 30, nous étions le 29. Ce soir-là, il doubla ses doses au pub. Dès réception des funestes nouvelles, la situation deviendrait chaotique. Il aurait à faire face à des regards remplis de haine et de désespoir. Il s'interdit de justifier ses choix, de rentrer dans cette logique d'expliquer le pourquoi et le comment des choses. Il pouvait dire qu'il n'y était pour rien, qu'il aurait cru. Il se devait d'assumer son rôle de chef de service, même s'il considérait n'avoir qu'une influence subalterne dans les prises de décision. Le personnel sous ses ordres ne l'entendrait pas de cette oreille. Il y eut un défilé incessant dans son bureau. Chacun arrivait avec son pli recommandé à la main. De vilains mots fusèrent, des portes claquèrent, des crises de nerfs se déroulèrent face à lui. Il garda un masque impénétrable, mais au fond de lui, la misère s'empara de son cœur. Tous ces gens le bouleversaient, mais son grade l'empêchait de leur dire qu'il les aimait tous et qu'il ne désirait pas ça. Au contraire, il se raidit davantage, donnant l'impression d'un monstre de sang-froid, l'image d'un fossoyeur d'emploi, d'un briseur de vie. Personne ne lui témoigna son soutien ou son amitié. Même ceux qui restaient ne lui manifestèrent qu'un intérêt relatif. Tous se doutaient que ses jours étaient comptés. Certains pensaient que l'alcool pousserait le bonhomme à bout, d'autres qu'il rejoindrait une charrette de cadres hors du coup. Ils approchaient de la vérité. Il ne voulait pas rejoindre le placard qui l'attendait. Depuis des mois, il avait perdu ses envies. Plus rien ne l'intéressait. Et seul le soir dans sa prison, il remâchait des idées noires. Le suicide en faisait partie. Lorsqu'elle prit le téléphone, son épouse ressentit un pressentiment. Elle écouta nerveusement les sonneries se succéder. Nulle réponse, il ne daignait pas répondre. Malgré l'heure tardive, elle prit son courage à deux mains, enfila un jean et un pull, et se précipita en direction de la ville. Son intuition féminine lui dictait sa conduite. Il lui fallait voir ce qui arrivait à son compagnon de toujours. Elle disposait d'une liaison Bluetooth qui lui permettait d'utiliser son portable sans risquer les foudres de la marée chaussée. Elle ne cessa d'appeler durant le trajet qui l'amena jusqu'au studio qu'il occupait. Elle sonna au digicode, mais n'obtint aucune réponse. Elle composa les 4 chiffres qu'elle connaissait et s'engouffra dans la cage d'escalier. Elle arriva tout essoufflée devant la porte du minuscule logement, actionna la sonnette et tourna machinalement la poignée. Lui s'ouvrit sous sa poussée. Elle vacilla l'espace d'un instant face au spectacle qu'elle découvrit. Sur la table, plusieurs bouteilles vides côtoyaient des boîtes de médicaments, tandis que son mari gisait inerte en travers du lit. Elle s'approcha de lui. Il respirait fortement d'une façon qu'elle n'avait jamais connue en plus de 30 années de vie commune. Elle composa le numéro d'urgence et expliqua à son interlocutrice ce qui se passait. 10 longues minutes s'écoulèrent avant son départ vers l'hôpital sur un brancard du SAMU. Elle venait de le sauver de la mort. Le mélange détonnant aurait fait son œuvre destructrice en moins d'une nuit. Après un bon lavage d'estomac et quelques heures d'observation, il put regagner son domicile. Elle décida qu'il ne rejoindrait pas le studio. Il se soignerait à la maison, car il avait grand besoin de se retrouver dans son milieu, loin de son carcan professionnel qui le détruisait jour après jour. Au petit matin, ils regagnèrent leur logis. La pluie les accompagna tout au long du voyage. Il lâcha une phrase surprenante sous l'averse. « Ce ne sont que les débuts des orages maléfiques. » Elle n'insista pas. Le moment était mal choisi pour lui demander de développer sa pensée. Après sa tentative d'attenter à sa vie, la dépression s'abattit davantage sur lui. Il ne trouvait goût à rien, tournait dans les pièces, tel un animal en cage. Le seul point positif à souligner était son sevrage alcoolique. Il ne buvait plus depuis son passage par les urgences hospitalières. Aujourd'hui, face au supplice qu'il endurait, son refuge devenait familial. Tout en douceur, il réussissait à éliminer cet adversaire diabolique qu'était le whisky et ses comparses. Conformément à leur habitude, ils ne dirent rien aux enfants. C'était leur secret qu'ils ne partageaient avec personne. Leur amour s'était consolidé à travers des situations difficiles qu'ils avaient surmontées ensemble sans le secours et les commentaires des autres. Ils étaient de ce bois et ils vivaient l'adversité comme une épreuve à vivre à deux. Rien n'aurait pu changer leur détermination. Bien entendu, l'employeur n'eut pas connaissance du motif réel de son absence. Le certificat médical délivré par un ami précisait « chute de tension due au surmenage ». La direction se doutait qu'il s'agissait d'un arrêt imputable à la situation actuelle. Cela n'entravait en rien les projets. Ce n'était qu'une simple péripétie. Les semaines se succédaient. Il ne se sentait pas de rejoindre son placard. Il préférait regarder roucouler les tourterelles perchées sur un arbre. La féerie renouvelée de la nature lui redonnait des forces. Il en appréciait l'étendue de la palette et son plaisir réconfortait sa douce compagne. Elle savait que cela ne pouvait qu'être transitoire. Il lui faudrait tôt ou tard se recoller à la réalité. Le facteur agita la cloche de la porte d'entrée. Il apportait une lettre commandée. Sans voir l'enveloppe, il en connaissait l'expéditeur. Son directeur l'informait de la suppression de son poste et qu'en conséquence, des mesures d'accompagnement pouvaient être envisagées. Il savoura les acrobaties de vocabulaire pour éviter des termes trop directs à l'exception de la disparition de son service. En lisant entre les lignes, il comprit que l'équipe directoriale souhaitait discuter de son départ de la banque. L'affaire fut rondement menée. Quelques jours plus tard, il se rendait au siège social et en moins de 2 heures, un accord fut paraphé par les deux parties. une prime substantielle lui serait attribuée pour service rendu. La banque acceptait de prendre à sa charge les délais de carence ainsi que le manque à gagner durant la période de chômage précédant la mise à la retraite.